I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grande Fleur Café. Hugues Robert.
Bien, bonsoir, bienvenue dans le Grande Fleur Café. Nous sommes pile entre les demi-finales qui étaient avant-hier soir et hier soir et la finale dimanche. Donc surprise, surprise, on va parler aujourd'hui de littérature et de football. Et on va commencer par un recueil de nouvelles, du collectif Antidata, des éditions Antidata, qui s'appelle Temps additionnel. On notera que la France a soigneusement évité pour l'instant de recourir à cet espace de tous les espoirs et de tous les dangers qu'est la prolongation. Les auteurs de chacune de ces 12 nouvelles ont su trouver des mots et pas mal de ruses pour nous émouvoir, pour nous faire rire, pour nous faire réfléchir à travers donc la prolongation. Alors il y a beaucoup de surprises parce que les chutes de ces nouvelles ont été souvent très soignées. On peut penser à celle de l'intérêt d'une femme pour les soirées foot, Muriel Renaud, chacun sa place. Celle du monologue intérieur d'un hooligan, Sophie Adriansen, seules les mères et les chanteuses de pop. Celles, elles sont deux, hein, dans deux registres très différents, qui nous rappellent que les stades de foot ont hélas eu d'autres usages que le sport. C'est Laurent Banit, sportier de nuit, et Stéphane Monod, Tegucigalpa, une obsession américaine. Celle qui montre la beauté de l'envie de jouer chez une jeune fille, c'est Gilda Fiermonte, la fille du quartier. Celle qui, au contraire, montre le cynisme très efficace de l'intérêt affiché pour le football, Jean-Baptiste De Cèze, en apnée. Celle qui jette un regard mi-amusé, mi-songeur sur les amitiés et les duretés sportives de jeunesse, Olivier Salahune, le gros Cézenec. Ou encore celle qui plonge dans ce possible enfer du dimanche qu'est le match amateur à enjeu. Jérôme Attal, un derby bien sanglant. Alors, mes quatre préférés dans le recueil, c'est Multifoot de Jérôme Lafargue qui fait un joli détour par l'existence possible d'univers parallèles et qui offre avec ça un texte complètement existentiel. Les vétérans du stade Balaruquois d'Olivier Martinelli qui réjouira certainement en un sympathique paradoxe toutes celles et tous ceux qui se sont déjà battus en tant qu'attaquants sur un terrain pour arracher un but presque à tout prix. Les chaussures qui courent vite de Gilles Marchand qui parvient à détourner l'apparente stupidité de son protagoniste principal en une poésie presque surréaliste. Et puis la palme qui revient à Malvina Majou avec son Les Taupes, qui reconstruit tout le déroulement d'un match, manipulé et saboté de A à Z par des taupes qui sont planquées sous la pelouse et qui s'appellent Kropotkine et Bakounine. C'est savoureux, c'est à mourir de rire, c'est vraiment un régal. C'est temps additionnel aux éditions Data, c'est paru en 2012 et il y a vraiment de quoi passer 12 très bons moments.
Grande Fleur Café, les coups de cœur du libraire.
Alors, le deuxième texte est plus ancien, il date de 2003, c'est le premier roman d'un inconnu qui à l'époque était un Vendéen de 32 ans qui vivait à Nantes. C'était 3 ans avant le succès de son Entre les murs, c'était bien avant que certains se mettent alors à lui reprocher d'avoir pris un peu la grosse tête. C'était 8 ans avant son jouissif retour en adolescence vendéenne avec La blessure, la vraie. Ça s'appelait Jouer juste, donc premier roman publié chez Vertical, qui offrait à la lectrice ou au lecteur un formidable hommage au football, incarné dans un football bien particulier, le jeu à la nantaise, longtemps célébré sous l'égide du formateur puis entraîneur Jean-Claude Suaudot, dit Coco, pendant 9 et 15 années entre 1973 et 1997, entrecoupé d'une brève parenthèse de 3 ans. Et j'avoue, c'est une confession intime, que ce jeu à la nantaise m'a longtemps séduit en tant qu'enfant et adolescent breton, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de clubs bretons qui restaient en division 1 plus d'une saison. Et que le seul qui, même s'il n'est pas breton techniquement, mais pouvait s'en rapprocher, c'était bien Nantes. À côté donc de cet hommage, François Bégodeau, dont je vais juste propose aussi subrepticement, bien plus qu'un texte sportif, et il anticipe de près de 10 ans l'écriture complètement obsessionnelle et le substrat sociopolitique de l'énorme Rouge ou mort de David Peace, dont on parlera tout à l'heure. Alors, je vais me permettre de vous en lire un petit extrait. Jouer juste, c'est le speech motivationnel d'un entraîneur, donc juste avant la prolongation, précisément, à ses joueurs. Jouer juste, dit-il. Jouer juste doit seul vous importer. En ce moment, vous ruminez, je parle à des vaches, ce n'est pas gratifiant. Vous dites que nous n'en serions pas là si l'arbitre avait sifflé la faute sur Frédéric au départ de l'action qui a amené leur égalisation. Vous dites que le match serait déjà plié si sur ce même but, un faux rebond n'avait pas trompé Michael. Vous vous dites que si le vent, si l'état de la pelouse, si le destin, si un battement d'aile de papillon à Pékin, Vous dites plein de choses, mais c'est mal vu et mal pensé. La vérité, je vous le dis avec toute la courtoisie due à qui écoute, la vérité est que vous avez cessé de jouer juste. Pendant cette pause avant la prolongation, vous pouvez endosser un maillot sec si vous voulez resserrer, si vous voulez, resserrer vos crampons si cela vous chante, vous taper mutuellement dans les mains si cela vous réconforte. À la reprise, vous n'irez vers la victoire qu'à la condition de reconduire le jeu produit ce soir avant les 15 dernières minutes, avant que votre pensée subitement se dissolve dans les énoncés parasites. Alors, c'est un ton inhabituel pour un entraîneur, c'est à la fois... Il y a une forme de parodie, enfin très intellectuelle, de théorisation du jeu, mais qui correspond aussi à des choses qui se font tout à fait. Ce qui est frappant, c'est que 12 ans après sa publication, ce texte demeure toujours aussi passionnant, toujours aussi essentiel, et cela, que l'on aime le football ou non. C'est vraiment un speech motivationnel d'un entraîneur qui est mythique, qui est imaginaire devant ses joueurs. C'est un moment d'écriture incroyable, c'est un condensé extrêmement incisif d'une vision politique du sport, de l'équipe, de ce que c'est surprenant, c'est très bienvenu.
Grande Flore Café, la sélection de la semaine.
Alors, le troisième texte est un peu différent, c'est aussi l'œuvre d'un romancier qui est un grand passionné de football à titre personnel. Je crois que c'est pas un scoop, il s'en est déjà confié et expliqué dans plusieurs entretiens. C'est Antoine Bello, le roman Matteo, qui est paru en 2013, qui est, pour simplifier à outrance, autour de la parabole des talents, mais appliquée en fait au football. Alors, publié donc en 2013 chez Gallimard, c'est le cinquième roman d'Antoine Bello, son sixième si on tient compte d'Amérique, qui a été publié à peu près à la même époque exclusivement sous forme numérique. Alors, c'est une narration qui suit 2 ans de la vie d'un prodigieux joueur de football universitaire. Et avec ça, Antoine Bello a choisi de traiter plus en profondeur que jamais l'un des thèmes qui hante son œuvre depuis 1996, celui du talent. Au sens notamment, mais pas exclusivement, de la parabole des talents de l'Évangile, et tout particulièrement des responsabilités et des devoirs qui vont avec le talent. Alors, dans Les Funambules en 1996, qui était un impressionnant recueil de nouvelles de l'écrivain qui débutait, c'est sur un mode qui jouait à dessein l'hésitation entre l'absurde poétique et le burlesque très Buster Keaton, que s'exprimait par exemple le perfectionnisme absolu des fabricants de mannequins Nicolas et Kreuzer, le toujours plus haut du funambule Soltino, le militantisme méritocratique nourri d'étoffes des héros de l'astronaute Jim Mute, l'obsessionnelle quête de sens des exégètes du jeu de quilles Sadarov et Goulitchan, ou encore le toujours plus épuré de l'écrivain minimaliste Maximilien Zou. Dans L'éloge de la pièce manquante en 1998, c'est par le biais d'une enquête policière très inhabituelle que le lecteur découvrait la soif de perfection et le jusqu'au boutisme sanglant, il faut bien le dire, du mystérieux protagoniste à la recherche de l'œuvre absolue dans l'univers, entièrement inventé par l'auteur, du puzzle de vitesse. On était déjà dans le sport. Beaucoup plus nettement, l'une des questions fondamentales du personnage Sleeve, qui est le personnage central, le héros, des falsificateurs puis des éclaireurs en 2007 et en 2009, c'est bien sa question intime, comment mon talent peut-il et doit-il peser sur le monde ? Un talent qui est réputé avéré, même s'il a dû dans la partie apprentissage de ce magnifique diptyque passer par un peu de polissage et d'erreurs de jeunesse et d'hubris, mais en tout cas c'est bien central. Et même l'enquête sur la disparition d'Émilie Brunet en 2010, au-delà du brio, du formidable hommage à Agatha Christie que constitue ce roman, et de la figure énigmatique du docteur Brunet, ce roman ambigu, c'est aussi une danse autour d'une angoisse. Cette angoisse-là, comment peut fonctionner un talent qui est aussi hors norme, quoique moins spectaculaire que chez Brunet, celui de l'enquêteur Achille Luneau, sans se dissoudre, sans se dévoyer dès lors que l'un de ses rouages mécaniques, la mémoire à court terme, lui fait défaut. Dans Matteo, Antoine Bello se consacre en plan rapproché à une quête qu'il avait jusqu'alors esquivée dans son œuvre ou simplement effleurée dans Les Falsificateurs, à savoir, au-delà de la part innée du talent, quel est le devoir de son détenteur ? Comment est-ce qu'il doit entretenir et développer ce qu'il a reçu ? Quels sacrifices doit-il accepter ou rechercher pour atteindre l'excellence, la perfection ? Et comment ce dessin s'insère-t-il dans un tissu social, amical, amoureux ? Autant de questions auxquelles l'auteur nous propose de réfléchir, directement ou indirectement, en accompagnant ces 2 ans de la vie de Matteo. Ce qui est fascinant dans l'écriture d'Antoine Bello dans ce texte, c'est que en choisissant le milieu du football universitaire, donc juste à l'entrée des grands clubs professionnels internationaux, ça permet de réjouir les amateurs du ballon rond, bien entendu, mais ça ne déroute pas les autres. On peut se délecter à l'évocation, par exemple, du football total des années Cruyff, apprécier, dire trouver la beauté justement qu'on trouvait dans le jouer juste de François Bégodeau. Mais on n'a pas besoin d'être féru du jeu pour apprécier la construction-reconstruction du collectif que conduit le joueur vedette et l'entraîneur. À partir de l'ensemble d'individualités qui ont leurs forces, leurs faiblesses, que le hasard des affectations en faculté leur a donné en début de saison. Alors c'est peut-être du côté d'Orson Scott Card, hein, celui d'Ender et celui d'Alvin Le Fuzzer, qu'il faut se tourner pour voir traiter avec autant de finesse en fait, ce type de scène et de parcours et de construction. C'est un livre fort dont la légèreté de ton ne doit pas tromper, hein, même si l'auteur n'a pas nécessairement les réponses. On s'attaque en tout cas à des choses essentielles avec beaucoup de conviction, en se drapant avec brio et un certain humour dans les métaphores assez musclées de la littérature et du football. Et c'est un texte que je vous recommande tout particulièrement.
Littérature et bière glacée.
Grand Flore Café.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grand Flore Café par Hugues Robert.
Alors, le quatrième texte n'est pas un roman ou un recueil de nouvelles, mais un essai. Un essai qui est très littéraire, qui n'est pas une dissertation, qui s'appelle « Le football, ombre et lumière » de Eduardo Galeano. C'est un livre de 1995 qui a été traduit en français en 1997 par Jean-Marie Saint-Luc chez Climat et puis qui a été complètement réédité après avoir été fortement revu et augmenté en 2014 chez Lux, avec une préface de Liliane Thuram. Alors, c'est une série d'essais qui sont consacrés au football, principalement à travers les Coupes du Monde, principalement à travers des anecdotes significatives qui peuvent en dériver. Et c'est une œuvre qui n'est pas faite par un journaliste sportif, mais par donc Galeano, qui est un grand écrivain et un dramaturge uruguayen, qui est plus connu en général en Europe pour son énorme essai historique de 1971 qui s'appelle « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », qui est consacré à l'histoire de l'impérialisme, de la corruption en Amérique du Sud, qui avait été écrit 2 ans avant le coup d'État de Bordaberry à Montevideo et le début de 12 ans d'exil pour l'écrivain. Qui disait en ouverture ou presque de ce texte, donc, avec un humour caractéristique de l'ensemble du volume. Comme Toulouse-Uruguayen, j'ai voulu être footballeur, je jouais très bien, j'étais une vraie merveille, mais seulement la nuit quand je dormais. Pendant la journée, j'étais la pire jambe de bois qu'on ait vue sur les terrains de mon pays. Donc Eduardo Galeano commence ainsi une sorte de confession qui est à la fois très hilarante et régulièrement tragique, à propos du football, du beau jeu, mais aussi à propos de racisme, de marchandisation. Deux axes de lecture qui expliquent que, et on y viendra tout à l'heure, c'est sur cette ombre et sur cette lumière-là que s'est aussi appuyé Jean-Claude Michéa pour son très beau « Le plus beau but était une passe », dont on parlera dans quelques instants. Au long des presque 300 pages de Galeano, il est beaucoup question de politique, de détournement d'esprit, de thésaurisation, de richesse, d'opacité financière, à propos de pas mal d'occasions, hélas, où le « jeu », qui est un terme qui se galvaude au fil de l'ouvrage, s'efface en beauté. FIFA et UEFA, que l'auteur déteste copieusement, hein, en tête, organisation toujours plus mercantile, vos enregistrements personnels, plus prompte que quiconque, ou presque, à s'acoquiner avec les pires dictatures que la Terre ait portées. Donc Eduardo Galeano excelle à rappeler ces pages sombres que l'on fait un peu toujours semblant d'ignorer et qui méritent qu'on les ait en tête. Donc voilà, quelques petits extraits qui mentionnent ces choses-là. Les affiches du championnat montraient un Hercule faisant le salut fasciste avec un ballon à ses pieds. Le Mondial 1934 fut pour le Duce une opération de propagande. Mussolini assista à tous les matchs dans la loge. D'honneur, menton levé vers les tribunes bondées de chemises noires, et les 11 joueurs de l'équipe d'Italie lui dédièrent leur victoire paume tendue. Un peu plus loin, on parle de l'édition suivante. Hein. Comme la précédente, cette compétition fut un championnat d'Europe. Seuls 2 pays latino-américains contre 11 pays d'Europe participèrent au Mondial 1938. La sélection d'une Indonésie qui s'appelait encore Hollandaise arriva à Paris, en représentation solitaire du reste de la planète. L'Allemagne incorpora 5 joueurs de l'Autriche tout juste annexée. La sélection allemande ainsi renforcée fit irruption dans le tournoi en se donnant des airs d'équipe invincible, avec le svastika sur la poitrine et toute la symbologie nazie du pouvoir. Mais elle trébucha et tomba face à la modeste Suisse. L'Italie, en revanche, refit sa campagne du tournoi précédent. Lors des demi-finales, les Azzurri vainquirent le Brésil. Il y eut un pénalty douteux et les Brésiliens protestèrent en vain. Comme en 1934, tous les arbitres étaient européens. La presse officielle italienne avait fêté de cette façon la défaite de la sélection brésilienne. Nous saluons le triomphe de l'intelligence italique sur la force brute des Noirs. Voilà un petit exemple. Un peu plus tard, le général Stroessner était élu président du Paraguay après une bataille disputée contre aucun candidat. Au Brésil se resserrait le cercle des militaires et des patrons, des armes et de l'argent autour du président Getúlio Vargas, qui se briserait peu après le cœur d'une balle de revolver. Des avions nord-américains bombardaient le Guatemala avec la bénédiction de l'OEA. Et une armée fabriquée au nord envahissait, tuait et remportait la victoire. Pendant qu'en Suisse, on chantait les hymnes de 16 pays pour inaugurer le 5e championnat du monde de football, au Guatemala, les vainqueurs chantaient l'hymne des États-Unis pour célébrer la chute du président Arbenz, dont l'idéologie marxiste-léniniste ne faisait aucun doute, vu qu'il s'en était pris aux terres de la United Fruit. Le Brésil étrennait son maillot jaune à col vert, car le précédent tout blanc lui avait porté malheur à Maracanã. Mais la couleur canarie n'eut pas un effet immédiat. Le Brésil fut battu par la Hongrie lors d'un match violent et ne put même pas atteindre les demi-finales. La délégation brésilienne fit un recours auprès de la FIFA contre l'arbitre anglais qui avait agi, le disait-il, au service du communisme international contre la civilisation occidentale et chrétienne. Alors ça c'est le versant sombre de l'ouvrage, hein, puisque il s'appelle bien Ombre et Lumière. Il y a aussi un versant nettement ensoleillé. Alors même si moi je confesse que cet énoncé imperturbable au fil des tous les 4 ans des vilenies politiques qui sont orchestrées en fait sous couvert de football prend au fil des pages un côté presque réjouissant par lui-même, à condition d'avoir un peu d'humour noir. Mais à côté de ça, donc l'ouvrage est composé de magnifiques évocations de joueurs grands ou moins grands, connus ou moins connus, mais très souvent atypiques, hein, et de beaucoup de moments qui sont baignés d'une grâce particulière. Alors on se régalera par exemple avec les fantômes de Zamora, de Samitier, de Friedenreich, d'Andrade, beaucoup plus près de nous, de Charlton, de Yashin, de Ziller, de Beckenbauer, encore plus près de Gerd Müller, de Cruyff, de Platini, de Hugo Sanchez, de Gullit, de Zico ou de Romario. Et c'est peut-être néanmoins dans les pages de synthèse, celles dont les intitulés très définitifs sont par exemple le ballon, les règles du jeu, les supporters, ou bien de façon un peu plus malicieuse, une industrie d'exportation. Presque toutes ces pages, ces chapitres sont des miracles d'équilibre entre la ferveur, l'érudition, la lucidité sociale et politique, et mêlent inextricablement les meilleurs et les pires aspects du football. Et c'est là qu'Eduardo Galeano atteint son sommet, qui rejoint en fait les grands écrivains qui sont capables d'extraire de ces balles une vérité littéraire exceptionnelle. Voilà, c'est un ouvrage qui est assez fondamental. Je pense que quand on s'intéresse au football et quand on s'intéresse par ailleurs au lien entre le sport et la politique et puis la culture populaire, c'est une lecture absolument incontournable. Et ne vous y trompez pas, même si j'ai peut-être insisté sur certains aspects, c'est une lecture qui est réjouissante.
Littérature et bière glacée.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grande Flore Café par Hugues Robert.
Alors, cinquième texte totalement différent, c'est un texte écrit par l'un des plus grands poètes italiens contemporains, donc qui produit de la poésie, le plus souvent en vers, et qui en 2010, pour une traduction en français en 2012 chez Actes Sud, par René Corona et Marguerite Pozzoli, a commis une assez jolie curiosité qui s'appelle donc Adieu au foot, 90 récits de 1 minute. Effectivement, si vous vérifiez avec votre chronomètre favori, vous verrez que ces récits font entre 50 et 65-70 secondes. Donc, en effet, si on est un peu vigilant, on arrive à faire tenir les 90 récits dans le temps d'une partie hors pause publicitaire de la mi-temps. Donc, il compte à la vitesse exacte d'un match de football l'histoire d'une passion vécue par l'auteur qui aborde toutes les époques de sa vie, enfant, joueur amateur, joueur du dimanche matin, supporter, père, et tout cela, pas en ordre chronologique, mais en ordre soigneusement dispersé, donc autour du football. Et même sans être fan de ce sport, l'intelligence, la sensibilité de l'écriture de Megrelli devrait vous impressionner. Un petit exemple, ça c'est à la 4e minute de la première mi-temps. Entre-temps, mon fils grandissait et je l'emmenais dans un jardin public pour essayer des gants et des chaussures à crampons qu'il avait reçus en cadeau. Je crois que les chaussures, il ne les mit plus après cette première fois. Il se sentait ridicule dans cette posture sur la pointe des pieds. « Il ne manque plus que le tutu », me disait-il. Je compris à partir de là qu'il en avait fini avec le foot, je veux dire avec le foot illimité, celui des stades à perte de vue, celui où il faut agripper le terrain à la force des crampons et du souffle. Par ailleurs, à vrai dire, le terrain m'avait toujours fait peur, à moi aussi. Pour ce qui est de jouer, j'y jouais, mais il était vraiment trop immense et toujours peuplé d'ailiers véloces. Qu'est-ce que je faisais là, immobile, perdu dans ces étendues parcourues d'adversaires jaillissants ? Voilà, c'est Valerio Megrelli, donc un poète italien, très grand poète italien, et qui confie sa ferveur, sa passion autour du foot, d'une façon très variée, très tendre et en même temps très pénétrante. Ça s'appelle « Adieu au foot ». Thank you.
cry, but now I hold my head high. You used to be somebody new. I'm not the changing little person still in love with you. Now you felt like dropping in and expect me to be free. Now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go. Walk out of the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore.
Que de souvenirs, que de souvenirs en attendant dimanche, et pour voir la repasser en boucle toute la soirée, vraisemblablement, enfin en tout cas on souhaite. Et donc on attaque avec un sixième texte, Équation football de Joachim Séné, paru en 2017. Joachim Séné qui est un poète qu'on prend parfois l'habitude de classer en littérature expérimentale, ce qui est un peu réducteur, mais qui dans la collection French Connection, donc des éditions des fictions, sous la direction de Caroline Octan, a publié donc il y a quelques mois ses Équations football, qui relie trois nouvelles qui sont écrites chacune. Vous voyez le rapport avec Valerio Magrelli dont on parlait il y a un instant. Chacune sont écrites le temps même d'un match de football. Donc, c'est trois matchs. Avec la même lucidité poétique acérée qu'on lui connaît, hein, qu'il a déjà développée dans La Crise ou dans C'était. Donc, il saisit trois matchs spécifiques, hein, en prétexte à une double exploration qui est à la fois poétique et politique, qui est rythmée, qui est enlevée, qui est très urgente. Et puis, la contrainte volontaire de réalisation, c'est que l'heure tourne et qu'il n'y a que deux heures pour aller au bout de chacun des trois exercices. Du coup, il y a vraiment un sentiment de rythme d'urgence qui est celui d'une partie, alors plus ou moins endiablée, puisqu'il y a trois matchs. Il y a une équation football qui parle donc d'un match que je vous laisserai découvrir, équation mondiale qui parle d'un match de Coupe du Monde, et puis équation euro qui parle d'un match de Coupe d'Europe des Nations. Alors, comme les meilleurs spécialistes de l'exercice, hein, que ce soit sur débordement ou sur coup de pied arrêté, dans les formes de l'essai qui travaillent au corps l'anecdote, alors on parlait tout à l'heure d'Edouard Galeano, on parlera tout à l'heure de Jean-Claude Michéa, ou bien la forme du récit romancé obsessionnel, on parlera de David Peace tout à l'heure, Joachim Séné convoque en quelques pages, donc déjà très haletantes et haletées, aussi bien les composantes du beau jeu que les travers du cirque des jeux, les enjeux géopolitiques et les cadenas biopolitiques, les joies sincères et les pis aller qu'il faut bien digérer, dans un travail qui est maîtrisé, qui est intense, qui est une résolution qui est ébauchée, hein, de quelques-unes des équations contradictoires du football. Pour emprunter les mots de Benoît Vincent, qui signe une très belle préface, ce geste que tu perçois, cette action que tu espères, ce but que tu chantes, tout ceci est un théâtre, et si cela on le savait déjà, son intelligence consiste à nous inclure dans le manège, lui compris, qui a-t-il derrière la ligne ? Et en 60 pages, il nous fournit une démonstration éclatante de cette intelligence, justement, de l'osmose du corps social politisé, qu'il le veuille ou non, et du texte poétique poussé dans certains de ses retranchements. Un exemple, les stars du foot sont d'anciens pauvres, les pauvres qui regardent sont pauvres, à présent et à jamais. Et puis c'est terminé, il faut quitter le terrain de la vie comme chaque jour. Je lis que le dribble est né au Brésil au début du XXe siècle. Olivier Guèze écrit « Ruse et technique de survie des premiers joueurs de couleur ». Le dribble leur évite les charges, violentes des adversaires blancs que les arbitres sanctionnent très rarement. Le joueur noir qui ondule les chaloupes sur le terrain ne sera pas rossé sur le terrain, ni par les spectateurs à la fin de la partie. Personne ne l'attrapera, il dribble pour sauver sa peau. Et aussi que dans les années 30, Arthur Friedenreich réalise sa première feinte de corps dans la rue pour éviter une voiture. Il nous faudrait dribbler CRS, loi capitaliste, mur frontière et abysse mortel en Méditerranée. Voilà, ça c'est dans le troisième match, celui qui s'appelle Équation Euro.
Grande Flore Café. Hugues Robert.
Alors, toujours pour continuer donc le football, la composante obsession du football, sur laquelle on va revenir, un texte qui est tout récent également, qui est 2017, hein, d'Olivier Elcoury, qui s'appelle « Surface de réparation ». Olivier Elcoury présente la particularité, donc c'est paru chez Notabilia, aux éditions Noir et Blanc, Noir sur Blanc, pardon. Et Olivier Elcoury présente la particularité d'être l'un des jeunes détenteurs donc, du master de création littéraire du Havre. Donc l'un des récents et masters de création littéraire qui ont été développés en France ces 4-5 dernières années. Surface de réparation, c'est en effet l'histoire d'une obsession, c'est l'histoire d'un enfant, puis adolescent, puis jeune homme, de sa relation avec son père. Sachant qu'ils partagent, et d'une façon parfois un peu chahutée et combative, une même passion, et une passion peu commodes à vivre, puisqu'ils sont fans de foot. Bon, jusque-là, ça va, c'est assez répandu. Mais ils sont en Belgique, et au lieu d'être fans d'Anderlecht, en fait, comme les gens qui aiment bien qu'on gagne, et puis ceux qu'ils décrivent eux-mêmes comme étant les bourgeois, en fait, de Bruxelles et d'ailleurs, ou fans du Standard de Liège, comme les Wallons se doivent de l'être, ils sont fans du FC Bruges. Et en fait, personne n'est fan du FC Bruges, ça n'existe pas, même les Brugeois. Et du coup, ils se faufilent, en fait, dans la défense serrée du roman d'apprentissage et de l'obsession potentiellement effrayante pour les proches, pour dépeindre la lente maturation donc, du fils d'un fervent supporter, qui devient lui-même ce genre de sainte victime consentante. Et il trouve un curieux mélange de sérieux légèrement dramatisant et de gouailles complètement forcenées, pour osciller donc entre les accents immobiles, on pourrait penser par exemple au David Lopez de Fief, hein, ou bien encore les rages entrées obsessionnelles de David Peace, on y reviendra. Donc c'est un ouvrage qui est très attachant, qui travaille depuis une perspective très différente de celle du Matteo d'Antoine Bello, mais qui explore aussi le mystère des moyens par lesquels la passion et l'engagement nous forment et nous déforment, et pas uniquement lorsqu'il s'agit de football. Voilà.
Grande Flore Café. Les coups de cœur du libraire.
Alors, dans la continuation de ce qu'on disait tout à l'heure sur Eduardo Galeano, donc le huitième texte ce soir, c'est celui de Jean-Claude Michéa. Le plus beau but était une passe, écrit sur le football. C'est un texte de 2014. Alors, en réalité, c'est un ensemble de textes qui ont été écrits entre 2010 et 2013 et qui ont été rassemblés et partiellement réécrits donc en 2014 chez Climat. Ces écrits sur le football, donc du philosophe Jean-Claude Michéa, qui est peu connu pour le football et plus pour ses prises de position politiques et théoriques, constituent un ensemble particulièrement précieux. Elles associent donc « Nous sommes tous des mendiants du beau jeu », qui est le texte d'un entretien de 2010 avec le journaliste tunisien Fawzi Majoub. « Y a-t-il une philosophie du football ?» qui est le compte-rendu d'une intervention au stage de philosophie de l'Académie de Montpellier en 2013. « Appel à sauver le stade de football Pierre Rouge », qui, comme son nom l'indique, est une pétition de 2013. Et enfin, « Les intellectuels, le peuple et le ballon rond », qui est sa préface de 1998, révisée en 2010, écrite pour le livre d'Eduardo Galeano, justement « Le football, ombre et lumière ». Alors, elles sont accompagnées de quelques extraits de l'Uruguayen. Et Jean-Claude Michéa, donc spécialiste d'Orwell, de la néo-décence ordinaire et de la voracité du capitalisme tardif, réussit là une étonnante synthèse sportive et politique dont l'intelligence et l'authenticité devraient réjouir la lectrice ou le lecteur, et bien au-delà du cercle des amatrices et des amateurs de football. Alors, je rappelle juste que la phrase « Le plus beau but était une passe », c'est pas de lui, hein, il l'a prise d'ailleurs emblématique, mais c'est une citation d'un grand joueur de football qui a longtemps exercé à Manchester United, et quand on lui demandait quel était le plus beau but en fait, qu'il avait marqué, Eric Cantona avait répondu de façon tout à fait sincère « Le plus beau but que j'ai marqué était une passe ». Et c'est assez emblématique de ce que Eduardo Galeano, donc en Uruguay, ou Jean-Claude Michéa en France, essaye de dire. Donc c'est une série de réflexions qui sont incidentes, ou au contraire qui sont très structurées, pour réfléchir autour de la place populaire du football, qui permet de régler au passage un certain nombre de procès intellectuels et souvent un peu snobs qui sont faits, parfois pour de bonnes raisons, mais souvent pour de très mauvaises raisons, à ce jeu, mais également sur le dévoiement de ce jeu, sur la manière dont cette réalité sociale et culturelle influence le jeu lui-même, et notamment privilégie, on sait qu'on s'en plaint de plus en plus, même aujourd'hui en 2018, le jeu défensif, l'absence de prise de risque, le stéréotype et la corruption plus ou moins apparente. Une des façons en fait de mettre tout ça en œuvre, hein, chez Michéa, c'est qu'il convoque effectivement un certain nombre de grands ancêtres récents ou moins récents. Il convoque par exemple Antonio Gramsci, qui disait le football comme un royaume de la loyauté humaine exercée au grand air. Christopher Lash, qui rappelait les croisades des puritains anglo-saxons au XIXe siècle contre toutes les distractions populaires et en particulier le football. Matthew Crawford, dont l'éloge du carburateur rappelle les caractéristiques beaucoup plus élaborées que ce qu'on croit des cultures populaires. George Orwell, qui rappelait sans aucune innocence que l'on ne peut pas jouer au football tout seul et que ce n'est pas par hasard. Ou le grand historien Alex Hobsbawm, lorsqu'il parlait de la religion laïque du prolétariat britannique. Alors, avec tout ceci, Jean-Claude Michéa nous entraîne sur les chemins analytiques, hein, du sens profond du beau jeu, de l'ancrage populaire, Il rappelle au passage, mais bon, parce que c'est Jean-Claude Michéa et que c'est qu'il y tient, hein, que la dérive sémantique qui est orchestrée depuis quelques années par les médias libéraux autour du populisme, qui en fait un épouvantail à diaboliser comme fasciste en lieu et place de son sens initial, qui était celui d'une inquiétude ou perplexité du peuple à l'endroit des décisions qu'il concerne et que prend solitairement l'oligarchie régnante après consultation de ses prétendus experts. Bon, voilà, ça c'est Michéa, ça nous éloigne un peu du football, mais pas tant que ça. Les chemins ébauchés, ils sont parcourus en fiction, donc on pensait tout à l'heure au Jouet juste de François Bégodeau. Le Vaillot Magrelli de Adieu au foot se trouve également dans cette zone. Et également David Peace, on va y venir dans un instant, puisque la réflexion autour du héros collectif Bichankli est très parallèle en fait à celle que conduit Jean-Claude Michéa, qui le cite d'ailleurs plusieurs fois. Donc c'est un ouvrage qui est abondamment pourvu en exemples précis, élégants, parfois cruels, qui sont empruntés à l'histoire du jeu. Mais c'est vrai que c'est surtout une très belle occasion de mieux comprendre la manière dont la soi-disant neutralité économique s'empare avec habileté, hein, et souvent avec une certaine puissance, de sphères sociales et culturelles qui lui avaient longtemps échappé, et souvent, hélas, pour le malheur du lien social et de la beauté complexe que cela comportait. Et donc c'est Jean-Claude Michéa, Le plus beau but était une passe.
Grande Flore Café. Hugues Robert.
Alors voilà, le dernier ouvrage, le neuvième sur lequel on va s'étendre ce soir, avant d'en citer brièvement quatre autres pour conclure, c'est un roman, c'est le plus gros texte dont je parle ce soir, c'est Rouge ou mort, donc de David Peace, hein, qui a été publié en 2013, traduit en 2014 par Jean-Paul Gracias chez Rivage. C'est le neuvième roman de David Peace. Avec un art très consommé de la ruse, il prétend traiter de football, hein, plus particulièrement du Liverpool Football Club, et encore plus spécifiquement de Bill Shankly, donc, qui a été l'entraîneur légendaire de Liverpool entre 1959 et 1974, période, donc une quinzaine d'années, pendant laquelle il aura hissé l'équipe depuis les tréfonds de la deuxième division anglaise jusqu'à l'orée d'une immense carrière européenne, en ayant au passage remporté plusieurs fois le championnat d'Angleterre, plusieurs coupes d'Angleterre et la coupe de l'UEFA. C'est un texte incroyable. Il faut accepter de s'y plonger. C'est un texte, moi je vais être honnête, qui peut être un peu éprouvant, parce que cette mise en scène de l'obsession sur 780 pages, c'est quelque chose qui est magnifique, mais qui demande d'entrer en fait dans le texte. Je vais vous donner un exemple, c'est presque dès le début, donc l'aventure de Bill Shankly va commencer. Dans le couloir, celui menant à son bureau de Leeds Road, Bill voit Eddie Brennan, le secrétaire adjoint du club de Huddersfield Town. Et Bill annonce « J'ai quelque chose à te dire, Eddie, quelque chose à te dire. Je m'en vais, Eddie. On m'a proposé le poste à Liverpool et je l'ai accepté. Alors je m'en vais, Eddie. Je pars. Et j'ai hâte, Eddie, j'ai hâte. Un grand club, Eddie, un club énorme, avec un tel potentiel, Eddie, un tel potentiel. Tu es allé là-bas, Eddie, tu connais. Cette foule, Eddie, cette ville, une sacrée foule, Eddie, une sacrée ville. Et ils sont prêts à me soutenir, Eddie. Le conseil d'administration, ils vont me soutenir à fond, Eddie. Me donner tout l'argent dont j'ai besoin. Pas comme ici, Eddie, pas comme ce club qui n'arrivera jamais à rien, Eddie. Ce club, pas de potentiel, Eddie, pas d'ambition, pas d'argent, Eddie, rien. La même chose avec Carlisle, la même chose avec Grimsby, la même chose avec Worthington, la même chose qu'ici. Pas comme Liverpool, Eddie. Un sacré club, une sacrée ville. Eddie, tout ce potentiel, toute cette ambition. Et tu peux me croire, Eddie, j'attends ça depuis toujours, Eddie. Une occasion comme celle-ci, l'occasion unique d'une vie entière, Eddie. C'est la chance de ma vie, bon sang. Et j'ai hâte d'y aller, Eddie. J'ai vraiment hâte. Alors qu'est-ce que tu en penses, Eddie ? Voilà, ça c'est Bill Shankly qui s'exprime. Et en fait, tout le long du roman, il s'exprime à peu près de cette manière-là. Tant qu'il est question de foot, c'est-à-dire presque tout le temps. Et puis après, il y a un contraste incroyable et qui fait comme à la fois une respiration et en même temps une sorte de soupir un peu craintif pour la lectrice ou le lecteur, parce que quand on ne parle plus de foot, Bill Shankly d'un seul coup se dégonfle sous nos yeux. Il n'est plus vraiment à sa place, il ne sait plus quoi faire. Donc, alors sous les yeux de la lectrice ou du lecteur, le projet de l'auteur en fait se dévoile au fil des pages de ce texte qui est une véritable épopée, hein, contemporaine. C'est avant tout un immense poème en prose qui célèbre d'une manière très particulière le lien politique entre le sport de masse et la société. L'art peut être un peu oublié d'un certain type de management des êtres humains pour le collectif, parce que les joueurs de football n'en sont malgré tout qu'un genre particulier. Et peut-être surtout le glissement d'un monde ancien à un autre réputé moderne, qui s'opère par paliers entre 1970 et 1990, avec dans ce cas particulier l'effacement, la disparition, la transformation de la classe ouvrière anglaise, qui est l'un des thèmes essentiels de David Peace, et en choisissant de l'incarner à travers la vie, hein, de l'équipe de football de Liverpool, donc club ouvrier s'il en est, Évidemment, on plonge dans l'histoire, dans la société, mais aussi dans l'obsession absolue, écrasante, pathologique hein, presque, celle qui possède son hôte, son bénéficiaire, sa victime, cette maladie qui déplace les montagnes et qui caractérise peut-être mieux que tout autre phénomène l'humain, qui peut le détruire au passage, mais qui sinon lui fait effectivement déplacer des montagnes. Donc c'est un roman qui est habité, qui est scandé, qui est aussi celui d'une nostalgie, hein, qui ne s'avoue pas comme telle, mais c'est celle d'une époque où le monde ouvrier anglais donc, avait encore les moyens, hein, 10 ou 15 ans avant les moments où prennent place d'autres romans de David Peace, donc Le Quatuor du Yorkshire, 15 ou 20 ans avant GB 84. Hein, ce peuple en fait, avait encore les moyens d'assouvir une partie de sa soif d'exister et de résister à la soif de posséder, dont la corruption rongeante allait emporter peu à peu leur monde bientôt. Alors c'est un basculement qui, là, se fait sur 20 ans et que Bill Shankly, en fait, voit sans le voir en tout cas, voit le terrain qui se transforme sous ses pieds malgré tous les succès qu'il obtient peu à peu. Je vous redonne un petit exemple, en fait, de compte-rendu, puisqu'après chaque match, et pendant l'ensemble de la carrière de Bill Shankly dans le roman, chaque match fait par Liverpool, Bill Shankly l'enregistre pour lui, le commente et puis en extrait ce qui est le plus important dans ses petites notes de son journal et ça donne des choses du genre « Le mercredi 30 août 1961, le Liverpool Football Club se rend au stade de Rocker Park à Sunderland. À la 26e minute, Roger Hunt marque. À la 39e minute, Jan Sandgren marque. À la 69e minute, Hunt marque de nouveau. Et à la 90e minute, la toute dernière minute, Sandgren marque encore. Et le Liverpool Football Club bat le Sunderland Football Club 4-1 à l'extérieur, ailleurs qu'à Anfield. Ce soir-là, cette saison-là, le Liverpool Football Club avait joué 4 matchs et gagné 4 matchs. Il avait marqué 14 buts et n'en avait concédé qu'un seul. C'était un bon début, un très bon début. Mais ce n'était qu'un début, que le début. Voilà, Bill Shankly, écossais, entraîneur passionné, monomaniaque, dur à la tâche, échappé au destin de mineur grâce au football professionnel, comme le plus possible de ses camarades de carreau. Dans ce texte, il nous hypnotise littéralement, page après page, d'une litanie hallucinée que l'on jurerait parfois être la vocalisation murmurée ou hurlée intérieurement de son flux de conscience, voué en permanence à la seule cause qui vaille, hisser le Liverpool FC à la hauteur qu'il mérite, pour la gloire du collectif, la gloire de l'équipe et la gloire du peuple qui soutient l'aventure en achetant ses billets, ses écharpes, ses autocollants. Alors cette litanie épique, elle est construite de répétitions incessantes, compulsives, forcément un peu dérangeantes, et elle s'interrompt donc de temps en temps pour des vignettes qui dévoilent les envers et les à côté de cette course folle. Fuite en avant pour une part, résistance désespérée face à une sorte d'entropie de l'avidité pour une autre. Alors changeant à ce moment-là de ton et de rythme d'écriture, David Peace décrit comme des espèces de plages de calme entre les innombrables rencontres enchaînées par les sisyphes du football professionnel et les entraînements quotidiens menés à 100 à l'heure, les ruses de l'Écossais, ses contradictions intimes, ses satisfactions, petites ou grandes, son orgueil inavoué, et puis aussi, et c'est des moments très émouvants, hein, le vide abyssal qu'il saisit au soir de sa vie, comme ça le saisissait déjà lors des rares relâches de l'activité frénétique, notamment pendant les vacances d'été, où là, d'un seul coup, il n'avait pas grand-chose à faire. Bon, il commençait déjà à préparer la saison suivante, mais il avait des moments où il essayait donc de remplacer les rituels obsessionnels de la gagne, de l'équipe, par des rituels un peu tristes de nettoyage domestique ou par des espèces d'efforts très généreux hein, en fin de carrière pour continuer à aider qui en aurait besoin ou qui voudrait utiliser encore un peu son énergie, qui n'a plus d'emploi, son besoin d'engagement qui n'a jamais été complètement étanché. Donc, comme David Peace s'arrange toujours pour le glisser dans chacun de ses romans, il nous offre aussi quelques moments de vérité et de décodage essentiels. Et là, il y en a deux qui sont particulièrement emblématiques, qui sont des entretiens authentiques à peine retouchés, hein, des moments de beauté rares qui sont dissimulés donc, dans le vide médiatique entre Bill Shankly et Harold Wilson, le Premier ministre travailliste, lorsqu'ils sont tous deux en activité la première fois, puis lorsqu'ils sont tous deux à la retraite ensuite. Et dans la simplicité de l'échange, dans la force tranquille des analogies qu'ils s'adressent, ce qui est peut-être l'une des questions centrales de l'œuvre de David Peace, donc surgit ce que sont le socialisme et la foi en le collectif, ce qu'ils pourraient être s'ils étaient plus courageux et plus habiles face aux forces qui œuvrent à les réfuter, et pourquoi ils échouent. En faisant en fait cet effort hein, pour nous montrer donc, comment Bill Shankly a construit tout cela, on arrive en fait même si toute la matière première c'est le football est magnifiquement traité, à un roman qui va très très au-delà de ça, qui est peut-être un des Il se trouve qu'il est publié dans une collection de romans noirs, que certains appellent parfois romans policiers. C'est un, peut-être une des plus belles œuvres de littérature des 10 ou 15 dernières années. Voilà, et ça c'est donc Rouge ou mort de David Peace.
Grande Flore Café. Les coups de cœur du libraire.
Voilà, donc on approche doucement de l'heure de se quitter pour aujourd'hui, parce qu'il faut quand même un peu de temps pour se préparer pour le match de dimanche, hein, vous le savez. Je vais juste mentionner en fait donc quatre textes, mais rapidement, qui sont également de très bons textes à parcourir sous football. Donc il y a le célèbre Carton jaune de Nick Hornby. Alors Carton jaune, c'est un petit peu triste de l'avoir traduit comme ça, puisque le titre original anglais c'est Pitch Fever, enfin Fever Pitch, qui est quand même un petit peu plus représentatif de la façon dont Nick Hornby, en tant que supporter d'Arsenal, en fait, essaye d'expliquer le mélange de joie et de honte qu'il ressent à être supporter de football en Angleterre. Et c'est, comme toujours avec Nick Hornby, c'est extrêmement drôle, c'est savoureux, et en même temps, c'est un immense connaisseur du football. Donc c'est très, très savoureux. Philippe Kerr, qu'on connaît surtout pour sa monumentale série, en fait, de romans policiers mettant en scène un policier allemand dans une Allemagne post-Deuxième Guerre mondiale où le nazisme n'a pas été écrasé. Donc là, il y a, je crois que c'est 14 romans dans cette série. Mais à côté de ça, Philippe Kerr a fait une petite trilogie qui s'appelle Le Mercato d'hiver, La main de Dieu et La fin de l'attaquant, et qui parle de football contemporain avec beaucoup de malice, beaucoup d'intelligence sur ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe autour du terrain, de façon plus ou moins visible. Et c'est marrant de voir un maître du roman policier comme Philippe Kerr, ce qui était aussi le cas de David Peace, hein, donc parler ainsi de football contemporain. Troisième texte à rappeler, Football Factory de John King. Donc c'est un texte extrêmement connu, hein, John King, qui est l'un, en France, qui est publié au Diable Vauvert. Qui est l'un des chantres britanniques de la déliquescence en fait de l'État-providence anglais et de ses conséquences sur les pauvres. Et Football Factory l'aborde effectivement par le phénomène du hooliganisme, ses racines, ses causes, ses dérives, tout en parlant à chaque fois malgré tout de jeu, de foi dans les équipes, et parvient à aborder le hooliganisme dans sa complexité à la fois clinique et sociologique, mais d'une façon très joueuse, très, très belle. Et enfin, Dominique Manotti, elle aussi autrice de romans policiers, d'excellents romans policiers, donc qui, dans la petite série qu'elle consacre à l'inspecteur qui ensuite sera commissaire Louis Daquin, l'un de ses textes s'appelle COP, et nous parle effectivement du Paris Saint-Germain, du Paris Saint-Germain d'avant le Qatar, du Paris Saint-Germain d'avant Neymar et Mbappé, du Paris Saint-Germain d'il y a plutôt 10-15 ans, et de tout ce qui environne effectivement à l'époque le Parc des Princes et les tractations sur les joueurs, sur les entraîneurs, sur les primes et sur tout un tas de choses. C'est très joliment fait, c'est toujours extrêmement documenté, comme toujours chez Dominique Manotti. C'est passionnant, même si on y parle peut-être un petit peu moins de football que dans l'ensemble des autres textes que je vous ai cités ce soir. Voilà, bah j'espère que vous aurez tout le temps de les lire d'ici dimanche, parce que ça enrichira en fait votre spectacle de France-Croatie. Et puis en attendant, bah évidemment, allez les Bleus, sans aucun nationalisme, hein, et à bientôt sur Radio Grande Contrôle.
Myself, I'm mixed between beauty and the beat. Kill them quick, that's my motto. Then police take a photo. Then police take a photo on the sunny side of the street. The wolf I like the most. He refused to be a dog. He refused to be a dog, just like Lassie was. Just show me a bloke, and in seconds I'll show. In seconds, like tomato, I will squeeze. I'm a bit bored. Bit bored. I'm a bit bored.
I quit. When I bleed like James Cagney on the screen. I shit and I spit and I never, never quit. I'm a proud, I'm a happy, cause I'm not a human being. I'm a quit bull. Quit bull. I'm a quit bull. Quit bull.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.